You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
D'abord, les grands titres de ce dimanche 20 mai, le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se sont mariés hier à la chapelle St George de Windsor. En Australie, la commission électorale n'a pas encore fixé les dates des 5 élections partielles dites Super Saturday après la démission récemment des parlementaires qui n'avaient pas renoncé à temps leur double nationalité avant les élections fédérales de 2016. D'abord, direction l'Angleterre pour le mariage royal du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle à la chapelle St George de Windsor hier avec ce reportage de Muriel Delcroix pour Radio France Internationale.
Mêlant savamment touche personnelle à un rite traditionnel, le mariage de Harry et Meghan a su toucher les centaines de milliers de fans venus à Windsor. Certes, les demoiselles et garçons d'honneur, les hymnes, les vœux, rien ne manquait, mais la cérémonie s'est avérée très différente. D'abord parce que déployant tous ses talents d'actrice, Meghan Markle a fait son entrée seule dans une robe blanche éclatante, à la fois simple et élégante.
Harry and Meghan have given
devant l'archevêque de Canterbury, le couple s'est dit « I will » et a échangé ses vœux, sous le regard de célébrités parmi lesquelles elle Elton John, les Beckham, George Clooney ou encore Serena Williams. Mais c'est la chorale gospel interprétant Stand By Me qui a fait de cet événement un mariage sous le signe de la modernité et de la diversité. Surtout, le sermon a coupé le souffle du révérend afro-américain Michael Curry, a su raviver l'attention des invités et dérider bien des visages. Complices et mains dans la main, les jeunes époux ont à l'issue du service échangé un baiser en haut des marches de la chapelle, sous les acclamations du public, avant leur départ pour une procession en calèche, saluant la foule en liesse. La fête se poursuivra en petit comité à quelques kilomètres du château de Windsor, cette fois à l'abri des regards du monde entier.
Voilà, c'était Muriel Delcroix pour RFI. On écoute maintenant un extrait du sermon du révérend américain Michael Curry à la chapelle St George de Windsor.
We must discover the power of love. The redemptive power of love. And when we do that, we will make of this old world a new world. For love. Love is the only way.
Voilà le révérend Michael Curry à la chapelle St George de Windsor. Le portrait maintenant des jeunes mariés avec Béatrice Leveillé pour RFI.
Meghan, élevée par sa mère depuis l'âge de 2 ans dans un quartier afro-américain de Los Angeles, se déguise en princesse, comme beaucoup de petites filles, sans savoir qu'un jour le rêve deviendra réalité. Pendant ce temps, Harry est un enfant rebelle, affecté par la séparation de ses parents. À la mort de sa mère, Diana, il se réfugie au Botswana, loin des châteaux, des photographes et des rumeurs. Son père, le prince Charles, héritier du trône, le place dans une institution à la sortie de laquelle il va multiplier les frasques. C'est au sein de l'armée britannique qu'il va trouver sa voie. Il passera plusieurs mois sur le front en Afghanistan, aux commandes d'un hélicoptère Apache, avant d'être rapatrié en urgence, parce qu'il est devenu une cible pour les djihadistes. Ses petites amies l'abandonnent les unes après les autres, vite lassées d'être traquées par les paparazzis. Meghan, qui prend goût à la célébrité en jouant dans des séries télévisées, n'a pas peur des photographes. Brillante élève, elle a fait des études de relations internationales, elle a été en stage à l'ambassade des États-Unis en Argentine, avant de se lancer dans une carrière d'actrice. Elle est fan de tennis et c'est en traversant l'Atlantique pour assister à une compétition qu'elle a rencontré Harry. Il est tombé amoureux et leur premier voyage a eu lieu en Afrique, au Botswana.
Voilà, Béatrice Leveillé pour RFI. En Australie, le gouvernement fédéral rejette les accusations que les 5 élections partielles ont été inutilement retardées. Elles seront tenues le même jour à une date que les commentateurs politiques appellent Super Saturday. C'est à la commission électorale de décider la date. Christopher Pyne, le ministre de l'Industrie, blâme l'opposition.
There's no unseemly delay. We're going through the process of making sure that this citizenship issue, which of course is Bill Shorten's issue these days because of his failure to act last year, doesn't happen again.
Le Labour a réagi, le frontbencher Anthony Albanese est sur l'ABC ce matin et il blâme le Premier ministre pour les délais.
Well, I think Malcolm Turnbull, just like he's running away from the public in Perth and Fremantle, is delaying these by-elections for reasons that he needs to explain.
Voilà, c'était Anthony Albanese. Une campagne des syndicats en Australie pour une réforme des lois industrielles pour protéger davantage le droit des travailleurs a eu le soutien des Verts. La campagne Change the Rules vise à protéger la sécurité de l'emploi et des augmentations des salaires en ligne avec les profits que font les entreprises et le coût de la vie. Les Verts ont approuvé la campagne des syndicats lors de leur conférence nationale hier à Brisbane. Animals Australia déclare avoir écrit au ministre fédéral de l'Agriculture pour lui demander de faire diffuser des vidéos de la souffrance des animaux lors de la conférence des ministres de l'Agriculture qui a lieu au Moyen-Orient ce week-end. L'industrie a été secouée en Australie par des révélations de moutons mourant dans des conditions horribles dans des bateaux d'exportation vers le Moyen-Orient. David Littleproud, le ministre est au Moyen-Orient ce week-end pour rassurer les importateurs de moutons vivants que l'Australie continuera ce commerce. Le porte-parole d'Animals Australia, Lynn White, a déclaré sur SBS que des explications sont nécessaires car il est probable que les ministres de l'Agriculture des autres pays ne connaissent pas les conditions à bord des navires transportant des moutons vivants.
We have had the vision viewed by Islamic experts and they have said that this does not comply with Islamic requirements such as the treatment of animals, nor halal requirements. So I think if there's transparency here about the welfare repercussions, especially during the summer months, that there is a possibility of consensus that this should be replaced by a carcass trade, which can be, you know, fresh meat flown in and also shipped in by sea.
Voilà, c'était le porte-parole de Animals Australia, Lynn White, sur l'ABC, sur SBS plutôt. L'Afghanistan, frappé par un attentat 2 jours après le début du Ramadan hier samedi. L'attaque a visé un stade de Jalalabad lors d'un match de cricket. Au moins 8 personnes tuées et 45 autres blessées. Aucune revendication pour l'instant. Le reportage de Sonia Ghezali pour Radio France Internationale.
Les messages de condoléances se multiplient sur les réseaux sociaux. La photo d'Hedayatullah Zahir, turban aux couleurs noir, rouge et vert du drapeau afghan sur la tête, est largement partagée. Ce jeune militant de la jeunesse afghane était l'organisateur de ce tournoi de cricket appelé la Coupe du Ramadan. « Nous voulons détruire l'obscurantisme des insurgés avec les lumières de l'unité », écrivait-il à l'un de ses amis quelques jours plus tôt pour expliquer le lancement de l'événement sportif. Les talibans ont nié toute implication dans cet attentat perpétré vers 23h, soit 4h du matin, après la rupture du jeûne observée dans le pays. 3 explosions ont retenti, les unes après les autres, déclenchant des mouvements de panique. 3 engins avaient été dissimulés au milieu des spectateurs, révèlent les autorités afghanes. Il y a 6 mois, un match de cricket avait déjà été pris pour cible. Un kamikaze avait tenté de pénétrer dans le stade et avait déclenché sa charge à l'entrée, où il avait été repéré par les services de sécurité, causant la mort de 3 personnes, en blessant 5 autres. L'organisation État islamique avait revendiqué cet attentat. Jalalabad est la capitale provinciale du Nangarhar, frontalière du Pakistan, où le groupe terroriste s'est implanté en 2014.
Sonia Ghezali pour RFI. Au Niger, une attaque dans la région de Tillaberi à la frontière malienne. 17 civils ont été tués. Reportage pour RFI de Marie-Pierre Olfan.
L'attaque a eu lieu vers 19h et a été commise par des hommes à moto qui parlaient tamashek selon des témoins. Les assaillants ont tué 11 personnes dans la mosquée car c'était l'heure de la prière et 6 autres aux alentours. Ils ont laissé pour mort un autre habitant qui a survécu à ses blessures. Toutes les victimes sont issues de la communauté Peul et pour les autorités, il n'y a donc aucun doute, il s'agit de représailles. Les attaquants auraient volontairement ciblé et tué 17 Peul pour se venger d'autant de Touaregs tués ces dernières semaines dans une attaque au Mali. Après leur forfait, les agresseurs se sont retirés en territoire malien sans être a priori inquiétés car aucune force de sécurité ne se trouvait à proximité. Les premiers soldats nigériens sont en effet basés à 20 km des lieux de la tuerie. De sources officielles, de nombreux renforts ont été envoyés envoyés sur place pour rassurer les populations. Ce n'est pas la première fois que des incursions ont lieu à la frontière. Elles sont de plus en plus nombreuses et difficilement contrôlables, confie une source sécuritaire qui s'inquiète de la recrudescence des conflits communautaires au Niger.
Marie-Pierre Olfan pour RFI. Le festival de Cannes a pris fin hier avec l'annonce du palmarès. Le japonais Hirokazu Kore-eda remporte la Palme d'Or. Écoutez les extraits de cette cérémonie.
Bienvenue à la 71e cérémonie de clôture du festival de Cannes.
La caméra d'or est attribuée à Girl de Lucas Dont.
The winner of Best Director is Pavel Pelkowski for Zimna Boyna. Call for. Best Actress is Samal Yeslamovan in Aika.
Madame la Présidente, cette année, vous avez voulu exceptionnellement remettre une palme d'or spéciale.
So for the first time in the history of the festival, we're presenting a palme d'or spéciale to Jean-Luc Godard for Le Livre des Marches.
Nous sommes là pour donner le prix à la meilleure interprétation masculine.
So, the winner is Marcello Fonte in Dogman, directed by Matteo Garrone. Le prix du jury is Nadine Lebaki for Kafanam. Ah.
Le grand prix, Madame la Présidente.
The grand prix goes to Spike Lee for Black Klansman.
Now it's time for the Palme d'Or. C'est intraduisible en français. Madame la Présidente, Mrs. Kate Blanchett, please, will you come back for the Palme d'Or?
And this year's Palme d'Or goes to Kore-eda Hirokazu for Shoplifters.
Voilà des extraits de la cérémonie du Festival de Cannes. Eh bien, on revient sur le prix du jury pour Capharnaüm de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, qu'on écoute.
Je crois profondément au pouvoir du cinéma. Le cinéma n'est pas seulement fait pour divertir, pour faire rêver. Il est aussi fait pour faire réfléchir. On ne peut plus continuer à tourner le dos et à rester aveugle à la souffrance de ces enfants qui se débattent comme ils peuvent dans ce Capharnaüm qui est devenu le monde. Ce film, ce prix, je voudrais le dédier en premier à tous mes acteurs. Tous qui ne sont pas réellement des acteurs, qui m'ont ouvert le cœur, qui m'ont ouvert leur vie, qui m'ont tout donné, qui ont décidé de me faire confiance et de me raconter leur peine et leur souffrance dans ce monde. Je voudrais aussi le dédier à mon pays, qui, malgré tout ce qu'on lui reproche, se débat comme il peut, et malgré tout ce qu'on lui reproche, a quand même accueilli le plus grand nombre de réfugiés dans le monde. Même quand il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa propre population.
Voilà, c'était la cinéaste Nadine Labaki qui a reçu le prix du jury à Cannes. En France, toujours avec la nuit des musées qui a eu lieu hier soir avec un peu plus de 1000 musées qui ont ouvert leurs portes à travers le pays gratuitement. Reportage Muriel Mahalouf, RFI.
Les 14 musiciens de jazz de l'Umlaut Big Band sont installés dans la grande nef du musée d'Orsay où affluent les visiteurs. La nuit des musées à Orsay est sous le signe de Claude Monet. Il y a 100 ans, en 1918, le peintre avait offert à l'État français les deux premiers panneaux des nymphéas pour fêter le retour à la paix. Mais il n'y a pas que les nymphéas. Monet a aussi peint les coquelicots, l'hôtel des Roches Noires, le déjeuner sur l'herbe et devant chaque tableau, un conférencier raconte l'œuvre et en dévoile les petites anecdotes devant un joyeux public familial.
Monet est allé faire un repérage à la forêt de Fontainebleau et il y a convié ses amis.
Il y a le derrière du petit enfant qui est allongé dans l'herbe, la menthe.
Et les commentaires vont bon train, le public s'approprie les lieux, c'est l'idée de cette nuit, désacraliser le musée et l'ouvrir au plus grand nombre.
Voilà le reportage de Muriel Mahalouf. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 25 degrés. Adélaïde 17, Melbourne 16, Hobart 14, Canberra 16, Sydney 20, Brisbane maximal de 26 degrés, Cairns 28, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 21 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 20 mai, le prince Harry, fils du prince Charles et de Lady Diana, et l'actrice américaine Meghan Markle se sont mariés hier à la chapelle St. George de Windsor. Voilà, fin du journal et merci de rester avec nous.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.